Chers frères et sœurs, une heureuse coïncidence nous a permis et nous permet tout au cours de cette journée de terminer cette semaine des messes du Faubourg par la fête de Notre-Dame des Sept-Douleurs ou Notre-Dame de Compassion. Je ne sais pas comment vous préférez l'appeler. Moi, je préfère l'appeler Notre-Dame de Compassion. Et vous avez sous vos yeux un très beau retable qui a été offert par un laïc, Soleroy, semble-t-il, il y a très longtemps, il y a quelques siècles, pour qu'elle puisse présider à notre prière dans cette chapelle du Faubourg. C'est assez émouvant de penser que depuis des siècles et des siècles, des gens sont venus prier devant cette image, Notre-Dame de Compassion. Et pourtant, quand on lit l'Évangile, vous venez de l'entendre après ma lecture, on ne nous dit pas que la Vierge Marie a reçu son Fils supplicié, mort sur ses genoux, comme vous la voyez là, lorsqu'on l'a descendu de la croix. C'est quelque chose d'atroce quand on y pense. Un condamné à mort, comme Jésus, remis sur les genoux de sa mère, c'est absolument insupportable. L'Évangile ne nous parle pas de cela. Mais c'est la piété chrétienne. Voilà. Bien, Marie a souffert. Alors pourquoi est-ce qu'elle n'aurait pas pu souffrir jusqu'à ce point-là? Non, l'Évangile nous présente Marie au pied de la croix dans une attitude très différente. Il y a deux jours, un ami que j'ai dans ce canton me demandait, comment est-ce que tu vois la mort, toi? Comment est-ce que tu vois la mort? Quelle est ton attitude face à la mort? Et si je vous posais la question? Alors je lui ai répondu, oui, la mort des autres, je vois un petit peu ce que ça signifie. J'ai assisté plusieurs fois à la mort de quelqu'un, des jeunes, des moins jeunes, ou des plus âgés, ou même des très âgés. Mais quant à la perspective de ma mort, comment est-ce que je vais entrevoir ma propre mort? Et l'Évangile, justement, d'aujourd'hui, nous montre comment la Vierge Marie envisage la mort de son Fils. On nous la présente au pied de la croix, comme associée à sa souffrance. Et on nous la présente debout, debout. Stabat Mater, comme on disait, comme on chantait autrefois. Elle est debout, elle n'est pas effondrée. Elle regarde la mort en face. Et peut-être, dans un geste d'offrande, elle offre son Fils, finalement, à son Père, le Père de Jésus, qui est aussi le Père de Marie. Il y a 2-3 semaines, mourait brutalement et subitement un de nos frères dominicains qui a un travail extraordinaire, disons dans notre ordre. Il est mort d'une mort subite au milieu d'une assemblée, très loin de son pays, il était français, il est mort en Amérique du Sud. Il avait 50 ans, je crois, et il laisse ses parents, son père et sa mère, bien sûr éplorés, et on a reçu de cette vieille maman qui a plus de 80 ans ce témoignage. Eh bien, voilà, disait-il, j'ai mis Dominique au monde. J'apprends sa mort maintenant, eh bien, je l'offre à son Père. L'attitude de Marie, debout, au pied de la croix, envisageant la mort, j'allais dire comme une nouvelle naissance, comme un engendrement à une autre vie, à la vie éternelle. Ça, c'est le premier élément de cette fête d'aujourd'hui. Le deuxième élément, c'est évidemment la parole de Jésus. Jésus qui, agonisant, c'est un testament, c'est le testament de Jésus, voyant son disciple, c'est pas n'importe quel disciple, c'est le disciple qu'il aimait, c'est son disciple préféré. Et il va lui donner, je pense, la chose aussi qu'il préfère le plus au monde, il va lui donner sa propre mère. « Femme, voici ton fils ». Et en disant aux disciples, « Eh bien, voici ta mère. » la mère, la femme, la première femme qui est apparue dans le monde dont nous parle la Bible. Nous connaissons son nom. Elle s'appelle Ève, n'est-ce pas? Ève. Et Ève signifie la mère des vivants. La mère des vivants. C'est extraordinaire que le nom de la femme, et j'en vois beaucoup devant moi, une femme, c'est la mère des vivants. Une femme, c'est la mère de la vie. Et dans beaucoup de cultures, on a toujours associé la femme, évidemment, c'est banal de le dire, à la naissance, à la vie, mais aussi à la mort. À ces deux engendrements, l'engendrement à la vie et puis l'engendrement aussi à une autre vie. Et Jésus donne la femme, femme, dit-il, il donne la femme à son disciple préféré, à son disciple bien-aimé, pour qu'il la reçoive comme sa mère, comme la mère des vivants, que cette mère puisse entretenir dans le cœur des disciples, non pas la tristesse et la désolation à la suite de la mort de Jésus, non, mais la vie, une vie qui reprend, une vie qui part et une vie qui se développe. La mère est donnée au Fils, au disciple. Et le disciple va remplacer Jésus d'une certaine manière, et la mère aura pour le disciple la même relation qu'elle avait avec son Fils, avec Jésus. Il y a là un transfert de témoins qui est assez extraordinaire. À partir de ce moment-là, eh bien, Marie sera présente dans la vie du disciple pour lui rappeler les paroles de son fils. Comme on le disait hier soir, faites tout ce qu'il vous dira. Marie sera toujours présente dans la vie des disciples aussi pour que le disciple puisse rendre grâce de toutes les faveurs qu'il aura reçues de Dieu, comme Marie a chanté son Magnificat. Le disciple aussi devra se poser la question s'il est capable d'aller jusqu'au bout, comme Marie s'est posé la question elle-même, comment cela se fera-t-il? Le disciple aussi devra dire un jour, eh bien voilà, je suis le serviteur ou je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ce que tu as dit, comme Marie a dû le dire. Marie devient indissociable, d'une certaine manière, dans la place du disciple. Et puis alors notre évangile se termine par une phrase, et à partir de ce moment-là, ou à partir de cette heure, le disciple l'a pris, où ça? Chez lui. Chez lui, oui, chez lui. On traduit parfois dans sa maison, c'est une manière de dire aussi. Alors il y a des pèlerins, n'est-ce pas, qui partent là-bas, en Turquie, qui vont à Éphèse, et puis on nous montre la maison de Marie. Moi je l'ai vue. Bon, la maison de Marie, vous savez, hein, c'est peut-être une pieuse coutume, je n'en sais rien. Mais ce n'est pas ça que veut nous dire le texte. Il l'a pris chez lui. Chez lui, on pourrait traduire, il prend Marie dans ses affaires. Dans ses affaires. C'est vraiment la traduction exacte. Il prend Marie dans ses affaires personnelles. Ah, on aime bien parfois dire ceci. Ah, ça, ce sont mes affaires, ce ne sont pas les tiennes. Hein. Mes affaires, c'est mon jardin secret. Ça m'appartient qu'à moi. Eh bien, Marie, à partir de ce jour-là, entre vraiment dans le cœur du disciple comme dans ses affaires personnelles. Ses affaires personnelles. Marie est liée intimement à la vie du disciple. Il y a à Fribourg un vieil évêque, Monseigneur Mamie, qui a 85 ou 86 ans maintenant, et on le rappelle très souvent. Et lorsqu'il avait une ordination et qu'il voyait ensuite le nouveau prêtre qu'il venait d'ordonner, il lui disait toujours, n'oublie pas de prendre Marie chez toi. À tel point que c'est devenu maintenant une espèce de plaisanterie. Hein? Ah, Monseigneur Mamie, n'oublie pas de prendre Marie chez toi. Il ne faisait que répéter ceci. Et ce n'est pas seulement pour les prêtres que Marie appartient à nos affaires, mais je pense que c'est pour n'importe quel disciple. Et nous sommes tous appelés à le devenir. Et peut-être dans cette grande famille qui est l'Église chrétienne, qui est l'Église œcuménique, eh bien nous, les disciples de confession catholique, nous avons peut-être cette spécialité, et heureusement qu'on l'a, de pouvoir avoir Marie dans nos affaires, non pas pour nous écarter des autres, parce que je pense que les évangéliques, eux aussi, ont leur spécialité et peuvent nous apporter beaucoup de choses, mais nous, nous avons ce trésor. Ne l'oublions jamais. Il est essentiel, non seulement à notre vie de foi, mais il est essentiel aussi à la vie de l'Église tout entière. Alors, je termine simplement en répétant la parole de Monseigneur Mamie, eh bien, prenez Marie chez vous.